poids nu. Cette semaine, Marie-Laure Delors me rencontre Hervé Temim. Ce soir, d'Alger à Paris.
Bonsoir Hervé Temim. Vous êtes avocat pénaliste, vous êtes né à Alger en 1957, inscrit en 1979 au barreau de Versailles, vous avez été, où vous êtes, l'avocat, entre autres, de Bernard Tapie, Roman Polanski, Jacques Servier, François-Marie Bagné, Gérard Depardieu, Laura Smet, la famille Leroux. Vous avez écrit un livre, « La défense dans la peau », où se dessine une passion pour votre métier, mais où se dévoile peu l'homme que vous êtes. Vous y dites peu de choses personnelles sur vous. On essaiera donc d'aller à la rencontre de votre conception du métier d'avocat ainsi que de l'homme que vous êtes. On vous dit affectif et fidèle, des qualités humaines qui semblent des défauts professionnels pour un avocat, mais on vous dit aussi mondain et snob, des défauts humains qui semblent des qualités professionnelles pour un avocat. Là aussi, vous nous direz ce qu'il en est. Vous nous recevez chez vous. Ce qui me permet de vous poser ma première question, un avocat a-t-il droit à une vie privée? Ne doit-il pas être disponible pour ses clients 24 heures sur 24?
Alors bonsoir d'abord, votre présentation est particulière pour moi parce que je ne sais pas si je suis affectif et fidèle, mais si c'est le cas, ce sont des qualités d'avocat. Et je suis certain de n'être ni mondain ni snob, et si je l'étais, ce serait des défauts d'avocat. Donc votre présentation est à mon avis tout l'inverse, non seulement de ma réalité, de ma vérité, mais aussi de ce que sont ou peuvent être les qualités et les défauts d'un avocat. Alors, un avocat a droit à une vie privée, oui et non. Bien sûr qu'un avocat a droit à une vie privée, j'ai une vie privée, j'en ai toujours eu une. Je dirais même que j'ai eu la chance d'avoir une vie privée qui m'a beaucoup absorbé, presque autant que mon métier. Mais en même temps, en tout cas, l'avocat que j'ai toujours été, que je suis encore, peut-être malheureusement pour moi, au bout de 40 ans, ça pourrait un peu changer, se doit d'être disponible pour ses clients 24 sur 24, je le suis. Je ne suis pas seul dans la vie, loin de là, mais je vis seul. C'est un choix commun. Et il n'y a donc pas de limite horaire, psychologique, mentale, à mon absorption du métier, ou par mon métier. Donc, oui, je n'arrive pas à décrocher, et je crois que j'en ai ni envie, ni besoin, et que ça ne correspond pas à ce que je ressens du métier.
Je l'ai dit, vous parlez facilement de votre métier, moins facilement de vous. Donc on va essayer de vous connaître davantage. Le grand avocat, Henri Leclerc, a coutume de dire que tout vient de l'enfance. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater face à vos clients?
Une très grande humoriste a dit que tout se jouait avant 60 ans. Je crois que c'est pas faux. Écoutez, j'ai pour Henri Leclerc une admiration infinie, mais là je crois qu'il enfonce une porte ouverte. Bien sûr, pour lui, pour moi, pour vous sans doute, pour nous tous, et bien sûr pour ceux qu'on défend. C'est tout à fait clair. Pour moi, ça fait pas l'ombre d'un doute.
Vous êtes né à Alger en 1957, vous en êtes parti à l'âge de 4 ans. Avez-vous un lien particulier avec l'Algérie? Avez-vous des souvenirs, des images, des odeurs? Est-ce que vous y êtes retourné?
Je n'y suis pas retourné, je n'ai aucune image, aucun souvenir de l'Algérie, mais j'ai été très marqué par ses racines orientales. Je me sens moi-même tout à fait oriental. L'Algérie est surtout liée pour moi à ma grand-mère, qui a été une personne décisive dans mon existence et incroyablement précieuse, qui était très nostalgique du pays, des gens, qui parlait devant mon frère et moi arabe quand elle voulait qu'on ne comprenne pas, profondément oriental dans sa conception de la vie, dans son appréhension des choses. J'y suis pas retourné. J'y retournerai peut-être. J'ai du mal avec, avec des souvenirs de cette nature. J'ai failli y retourner, mais dans des conditions formidables d'ailleurs, mais parce que j'avais eu à défendre tout à fait par hasard un ancien chef du protocole du président Bouteflika qui avait été accusé par erreur d'avoir commandité l'assassinat de l'avocat Ali Messili en France. Et après qu'on ait obtenu ce non-lieu, il connaissait tout de ma famille, de ma vie. Il m'a proposé d'aller en Algérie. C'était très sympathique de sa part. J'ai pas voulu y aller dans des conditions officielles, pas être mêlé de près ou de loin au régime. Et j'y suis pas retourné. Mais je compte le faire.
Vous avez grandi dans quel type de famille? Que faisaient vos parents?
J'ai grandi dans une famille donc de juifs pieds noirs qui étaient des colons enrichis, puis ruinés par la guerre d'Algérie, sans jamais d'ailleurs en avoir eu ni rancœur ni ressentiment. Et ma mère n'a jamais travaillé, j'ai la chance de la voir encore aujourd'hui, elle m'a eu très jeune. Et mon père était médecin. Voilà.
Est-ce que vous gardez des images fortes de votre père, qui est mort alors que vous aviez 10 ans?
J'en garde des images extrêmement fortes. Très fortes. Mais je les garde pour moi.
Votre identité juive est-elle importante pour vous? Et cette importance a-t-elle varié au cours des âges et selon les périodes?
Oui, cette importance est grande. Je ne crois en rien. Donc je n'ai pas cette chance et je ne pratique absolument aucune, non seulement aucune religion, je ne respecte aucune fête. Je suis un mauvais juif, comme me disent mes amis juifs. Je suis en plus quelqu'un de très très chanceux parce que j'ai été élevé dans une famille qui ne connaît pas le sectarisme, qui ne croit qu'au mélange, qu'à la mixité, et donc j'ai jamais eu à entendre, ne serait-ce d'ailleurs même qu'un mot qui s'apparente de près ou de loin à une forme de discrimination. Donc, mais cette identité a varié, elle devient de plus en plus forte. C'est difficile de la qualifier quand on ne croit en rien, quand on ne respecte rien, et quand on est ouvert à tout. Je regrette que beaucoup d'amis juifs que j'ai soient, à mon avis, un peu enfermés, mais je me sens effectivement tout à fait juif, plus que juif, comme disent les juifs, mais en même temps complètement ouvert, absolument à toutes les religions et à toutes les femmes, les hommes, quelle que soit leur origine, alors, vraiment. Il n'y a jamais eu de distinction pour moi. Elle a varié avec le temps parce que figurez-vous que l'ironie du sort, bien que ma famille était une famille relativement, en tout cas socialement, protégée, avait un père médecin, on avait été ruinés, mais enfin on n'était pas dans un dénuement absolu. J'ai grandi à Versailles. Alors inutile de vous dire que à Versailles, un garçon, un être humain de sexe masculin, juif pied noir dans les années 60, 70, c'était relativement singulier. Donc, ma grand-mère, toujours elle, nous a élevés, si vous voulez, dans la fierté, dans la connaissance de notre identité, bien que pas religieuse non plus. Mais c'était quand même mieux que les voisins ne sachent pas qu'on était juifs. Donc il y avait une espèce de, c'est d'ailleurs assez extraordinaire, de fierté, mais de crainte, d'identité assumée, mais plutôt pour soi. Et je dois dire que j'ai jamais souffert d'antisémitisme à Versailles durant mon enfance, jamais. Je mentirais en vous le disant. Même si j'ai très très peu de points communs avec cette ville où j'ai pourtant passé des moments formidables, et notamment au barreau. Mais, voilà, quand on a mon âge, l'âge que j'avais à Versailles, quand on est un petit garçon, On a probablement envie de ressembler aux autres, en tout cas c'était probablement mon cas. Et au fil du temps, je me suis aperçu pour bien des raisons, cette identité juive n'en étant pas probablement la plus importante, que j'avais très peu de points communs avec la plupart des enfants que je rencontrais.
Est-ce que vous vous souvenez, Hervé Temim, des conditions dans lesquelles vous êtes arrivé en France en 1961?
Non.
Et est-ce que vous avez été marqué par l'exil?
Non, je ne m'en souviens pas. J'ai un souvenir, mais c'est un souvenir qui m'a été rapporté. En fait, j'ai été élevé aussi, j'ai un frère plus jeune que moi, et j'ai été élevé en grande proximité avec mes cousins, deux cousins, dont l'un est décédé dans des conditions tragiques aussi, très jeune, comme mon père. Et il m'a été rapporté que quand on est arrivé, j'avais donc 4 ans, je suis allé chez mes cousins qui, eux, avaient... C'est pour ça qu'on s'est retrouvé à Versailles. Il y avait une sorte de port d'attache là-bas et que j'ai pas voulu suivre ma mère et ma grand-mère. Et qu'à 4 ans, alors qu'ils me disaient « Mais non, mais viens avec nous », j'ai dit de manière péremptoire « Mon corps est à moi ». Et en fait, ça m'a toujours dit, j'ai toujours été perçu par mon père peut-être, mais par ces femmes absolument inimaginables qui m'ont élevé, comme quelqu'un qui mettait sa liberté au-dessus de tout, même quand il était un tout petit enfant. Et je crois que c'est vrai.
Vous nous avez parlé de votre grand-mère. Qui était votre mère? Quel portrait vous en feriez, même si je me doute que c'est difficile pour un fils de faire le portrait de sa mère?
C'est difficile. Ce qui est difficile, même si je suis heureux de le faire, c'est de se livrer à l'exercice auquel vous me soumettez. Parce qu'on en dit à la fois trop et pas assez. Ma mère, d'abord, j'ai la chance de m'avoir, de la voir. Vous voyez, quel lapsus. J'ai la chance de la voir. Est-ce que je suis ma mère? J'en sais rien. J'ai la chance inimaginable de la voir, elle est très jeune, et elle m'a eu alors qu'elle avait 18 ans. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis si réussi, d'après elle, je plaisante évidemment. Et je ne peux même pas vous dire, c'est une femme absolument extraordinaire, qui a un amour pour ses enfants qui est débordant, qui nous a donné absolument tout ce qu'elle avait. Je parle pas sur le plan matériel, ça c'est plus qu'évident, je pense que même c'est capable de donner beaucoup plus que ce qu'elle a. Et qui, malheureusement, a été probablement marqué très, très douloureusement, en tout cas pour nous, par le décès de notre père quand elle avait moins de 30 ans. J'étais l'aîné, j'avais 10 ans, très mauvais âge. J'ai évidemment... beaucoup souffert de cette disparition. Et en même temps, j'ai eu une chance extraordinaire, une double chance extraordinaire. C'est qu'à la seconde où j'ai compris que mon père était mort, il est mort chez moi, chez lui, j'ai eu, si ça a un sens, une résilience immédiate. Immédiate. Et j'ai su que ce serait ma plus grande force et que je n'échangerais jamais mon destin contre aucun autre, que je ne voudrais jamais lire un seul regard de compassion ou de pitié dans le regard de qui que ce soit, parce que je ne la méritais pas. Mais en revanche, évidemment, j'ai beaucoup souffert, eu un sentiment d'injustice très grand pour lui. Et la deuxième chance que j'ai eue, c'est qu'à partir de ce moment-là, alors ça crée beaucoup de névrose probablement, mais je ne pense pas qu'on puisse être avocat pénaliste sans en être rempli, j'ai eu la chance d'avoir un amour absolument démesuré de ma mère et de ma grand-mère. Je parle beaucoup de ma grand-mère, ma mère était très jeune, j'avais un rapport un peu conflictuel probablement avec elle quand j'avais 10 ans et plus. C'est normal, je pense, quand on perd un parent, parfois on peut en vouloir inconsciemment à celui qui reste. Mais ma grand-mère était un personnage de roman. La mère de Romain Gary aurait mérité d'être poursuivie pour mauvais traitement enfant à côté de ma grand-mère. Et j'ai la chance de ma vie d'avoir rencontré une femme qui, sans me détruire, parce que c'était pas ma mère, mais ma grand-mère, m'a livré un amour aussi modéré, avec des scènes que je peux pas compter. Mais si j'avais du talent, c'est ça que je ferais. C'est écrire sur elle, parce que c'est pas croyable. Je fais des one-man shows avec mes amis, ils sont morts de rire. Entre le rire et les larmes, mais c'est pas du tout parce que je suis drôle à ce moment-là. C'est parce que ce que j'ai vécu, on met des années à le comprendre. C'était inouï.
Vous dites d'ailleurs rencontrer, en parlant de votre grand-mère, c'est-à-dire que vous auriez pu passer à côté d'une telle femme?
Non. Non, parce que dès ma naissance, avant qu'il y ait le moindre drame dans notre famille, j'étais le premier petit-fils adoré. Non. Je dis rencontrer parce que c'est... Vous savez, il y a des gens dans la vie, moi je suis peut-être encore très naïf, mais il y a des gens qui vous font croire en la nature humaine, en l'homme, en la femme. Et moi, j'ai eu cette chance de croiser, ça a continué, de croiser une grand-mère, une mère, qui sont des femmes exceptionnelles. Vous savez, je dis souvent en plaisantant, je peux vous garantir que si demain j'étais le meilleur avocat du monde, ou si je découvrais le vaccin contre le sida, je me considérerais comme un nain à côté de ces femmes qui m'ont élevé. Il y a quelque chose, vous savez, dans l'infiniment grand, ben voilà, je l'ai rencontré. Alors évidemment, on n'en est pas digne, mais je l'ai rencontré. Et malheureusement, c'est même pas un fantasme, c'est vrai. Je peux même pas vous raconter. Vous croiriez pas.
Est-ce qu'on peut dire, dans ce cas-là, que la mort de votre père a marqué la fin de votre enfance?
Ah, clairement. Je crois même... Le fait d'avoir compris que mon père était malade avant, donc vers 8 ans, a marqué la fin de mon enfance. Oui, oui, clairement.
Tout ça, vous l'avez compris?
Oui, non, mais enfin, je l'ai compris et vécu, si j'ose dire, en direct. J'étais un enfant très, très, très anormalement précoce, très mature, plein de dérision à l'égard des petits garçons de son âge. Enfin bref, oui, oui. Mais attendez, très... Je garde un très très bon souvenir de mon enfance. Il y avait autant de... Mais vous savez, ça, ce que c'est... Quand on parle d'identité juive, je ne sais pas ce que ça veut dire, je vous dis qu'elle était forte. C'est aussi « Nous nous sommes tant aimés » des Torres Scola, c'est... Entre le rire et les larmes. Le bonheur et la joie, la quête du plaisir... l'inouïe chance d'être adoré, et puis le désespoir absolu de savoir que d'un instant à l'autre, tout peut basculer. Et j'en ai une conscience aiguë aujourd'hui. Ce qui fait d'ailleurs que je suis très gai dans la vie. Très.
Vous avez souvent souligné que plusieurs grands avocats, de Kiegeman à Banater, en passant par Dupont-Moretti, avaient perdu tôt leur père. Vous n'y voyez pas un hasard, hein? Pourquoi?
Alors, écoutez, d'abord parce que ce que je vais vous dire peut paraître horrible, moi je sais que ça a été une douleur et une chance. Je ne dis pas une joie et une souffrance comme dans la femme d'à côté, mais ça a été un malheur infini et une chance inouïe en même temps. Et... compris comme tel par moi. Donc, je sais ce que c'est que le poids d'un père, d'un aîné, d'un maître, d'un patron. Je ne l'ai pas subi. J'ai pas eu la chance de le connaître, mais je ne l'ai pas subi. Je l'ai peut-être cherché, mais je ne l'ai pas connu. Et j'ai eu une telle passion pour mon métier qui n'a pas baissé d'un iota, que, évidemment, dans notre métier, alors c'est une culture limitée, mais j'ai une très grande culture, Dupont-Moretti, dans notre génération, par exemple, à la même, évidemment, des avocats du passé, etc. Et c'est vrai que j'ai été stupéfait de constater que beaucoup des avocats que j'admirais, pas tous, mais beaucoup des avocats que j'admirais, étaient orphelins de père. On aurait pu ajouter Badinter à cette liste. Et il y en a beaucoup d'autres. Alors oui, j'ai probablement considéré que c'était pas un hasard, mais j'en ai pas fait une théorie. Évidemment, tout orphelin ne sera pas avocat ni un bon avocat, et tout bon avocat n'est pas nécessairement orphelin. Je suis pas bête à ce point, mais je vous raconte une anecdote quand même. Quand Stéphane Durand-Soufflon a écrit avec Éric Dupond-Moretti son livre, Bête noire, il m'a appelé, c'est lui qui d'ailleurs a écrit pour la première fois que je disais, parce que c'est vrai que je disais ça, mais en plaisantant. Tiens, c'est quand même marrant. Il m'a dit, dites-moi, Hervé, c'est vous qui avez cette théorie-là, ça m'intéresse. Je dis, c'est pas une théorie, mais c'est un journaliste pour qui j'ai beaucoup à la fois d'amitié et de respect. Je dis, non, mais, je vous donne des exemples. Il dit, oui, non, mais alors, je vous appelais parce que Émile Pollack, je suis le spécialiste d'Émile Pollack, puisque j'ai fait un discours de rentrée de conférence sur Émile Pollack. Émile Pollack, il était orphelin. Ben, je lui dis, enfin, Stéphane, bien sûr. Il l'écrit dans le bouquin. Et un jour, Éric Dupond-Moretti m'appelle et il me dit, t'es un bel enfoiré quand même, quel abruti tu es. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, ben, je vais t'envoyer la lettre que j'ai reçue. Et il avait reçu une lettre de quelqu'un qui lui disait, votre livre est formidable, mais vous avez commis une erreur. Pourquoi vous avez dit que Émile Pollack était orphelin? Il n'était pas du tout orphelin. Non seulement il n'était pas orphelin, mais son père allait assister aux audiences quand il était tout jeune avocat. Il se fondait dans la foule des badauds, et quand Émile Pollack avait plaidé, il disait aux gens, vous connaissez ce jeune avocat si brillant? Comment s'appelle-t-il? Les gens disaient, je vais me renseigner. Pollack, il s'appelle Pollack. Et figurez-vous que non seulement je connaissais cette anecdote par cœur, mais qu'en plus je savais même qu'Émile Pollack, dont je connais tout, avait dit, son père était bijoutier, qu'il serait prêt à défendre ceux qui agresseraient ou attaqueraient la bijouterie de son père. Et dans un éclair, quand Stéphane me demande au téléphone, mais il était orphelin, j'en doute même pas, comme si moi-même j'étais victime de cette non-théorie que pourtant je dis. Voilà. Donc si vous, et je crois malheureusement que ça en dit beaucoup de moi. Trop. C'est-à-dire au fond, je pense que, ouais, c'est plus facile quand on n'a pas eu son père.
Est-ce que vous diriez, Hervé Témime, que vous avez manqué d'autorité dans votre jeunesse?
Ah, c'est pas un manque, c'est un défaut absolu. Oui, comme je l'ai souvent entendu dire, c'est pas à moi qu'il fallait dire non, et je ne l'ai pas entendu. Jamais, mais je vais vous dire une chose, et ça, c'est pour ça que je pense que les conséquences négatives de ce que j'ai vécu sont largement compensées par les effets positifs, et je l'ai vu pour tous les gens. Vous savez, j'ai commencé en défendant des gens toujours commis d'office. Et c'est incroyable, c'est de la même manière que tous les orphelins ne sont pas de bons avocats, tous les enfants qui ont manqué d'amour ne sont pas des délinquants. Mais il y a peu de délinquants qui n'en ont pas manqué. J'ai été stupéfait dans mes toutes jeunes années, j'avais 21 ans. J'ai des certitudes sur tout, j'ai tout perdu de ces certitudes, de constater à quel point je considérais, moi, tout jeune avocat, que la responsabilité des parents était toujours écrasante face aux dérives des enfants devenus adultes. Donc moi, ok, j'ai manqué d'autorité, mais, vous savez, j'ai jamais joué sur le fait que j'étais orphelin vis-à-vis de mes... Jamais, ça, jamais. J'étais beaucoup trop fier. Mais j'aimais tellement ma mère et ma grand-mère, même quand j'étais petit, que jamais je n'aurais fait des choses qui auraient pu les faire souffrir. Donc effectivement, j'étais d'une indépendance absolue. Pas à moi qu'il fallait dire non, mon corps était à moi, mais j'ai jamais fait de conneries. J'étais à Versailles, j'ai jamais volé un disque. À l'époque, tout le monde volait, partout. Tous mes copains, ces petits bourges de rien du tout, là, ils volaient tous, ils se croyaient malins en volant, j'ai jamais volé.
Est-ce moi, que vous étiez un bon élève?
Très bon élève. J'aurais été meilleur élève encore sans doute avec mon père, mais j'étais très bon élève depuis toujours. J'ai jamais volé, je me suis jamais drogué. Tous ces petits bourgeois de Versailles sniffaient de l'éther. Et moi, je trouvais ça plus original de ne pas le faire. Je ne l'ai jamais fait. Et je n'ai pas considéré que j'étais conforme à tout ce que je déteste, parce que je ne le faisais pas. Je ne dis pas que j'ai été parfait, ni un bon fils, ni un bon petit-fils. Mais ce manque d'autorité qui aurait dû me conduire droit à la délinquance ne l'a pas fait, parce que j'avais quand même beaucoup de respect pour elle. Beaucoup d'amour pour elle. et une image extrêmement forte de mon père. Très forte. Trop forte. Mais très forte. C'est-à-dire que je le considérais, je le considère toujours, comme un homme grand. Un seigneur tel qu'il m'était décrit, tel que je le vois. Et je ne sais pas s'il serait fier de moi, je n'ai pas cette prétention, mais en tous les cas, je n'aurais pas voulu avoir des comportements que je n'aurais pas pu défendre, et j'étais mon propre avocat, vis-à-vis de ma mère ou de mon père.
Est-ce qu'il y a une valeur que vous mettez au-dessus de toutes les autres ?
Je crois que s'il y en a une, c'est s'il y en a une, il n'y en a pas vraiment, il y en a plusieurs. Mais la valeur que je mettrais au-dessus de tout, c'est l'intégrité. L'intégrité de manière absolue, l'intégrité à soi-même. Et quand j'étais enfant, ma grand-mère nous disait qu'en arabe, notre nom voulait dire intègre.
La romancière et dramaturge Yasmina Reza a dit dans une interview: quand on s'aventure dans l'espace public, dans quelque domaine que ce soit, artistique, politique, quand on se soumet à l'appréciation de ses semblables, on cherche à combler une fêlure initiale. On cherche la reconnaissance pour combler une faille. Vous êtes non seulement un avocat, mais un avocat médiatique. On en parlera. Vous êtes connu du grand public. Recherchez-vous la reconnaissance pour combler une faille ? Êtes-vous d'accord avec ce que dit Yasmina Reza ?
Je pense que j'ai beaucoup de failles, probablement à combler, mais vous savez, Yasmina Reza, que j'admire beaucoup, a dit ça, je crois qu'elle a raison, je lui donne raison. Mais Camus a dit, de mémoire, l'essentiel n'est pas de guérir de ses maux, mais de vivre avec. Et moi, je ne cherche pas à combler mes failles. Je ne cherche pas à les guérir, je cherche à vivre avec, et je vis très bien avec, tous les déséquilibres qui sont les miens. Et il est absolument évident que j'ai cherché, et je cherche encore, une reconnaissance, qui est d'ailleurs me concernant essentiellement, la reconnaissance de mes pères, mais pas seulement, et que j'estime, pour l'instant, ne pas avoir suffisamment obtenu. Je n'ai pas de sentiment, ni d'autosatisfaction, ni de réussite professionnelle. Mais je suis toujours à la recherche de cette reconnaissance, bien sûr. Je crois que nous le sommes tous.
À demain, Hervé Temim.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Marie-Laure Delorme avec Hervé Temim. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Jean-Marie Porcher, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.